Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Frédéric. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, vous êtes aujourd'hui officier de réserve, mais vous venez nous parler d'une histoire, nous raconter un souvenir. Alors, pas d'opération, puisque vous êtes dans un domaine très particulier, qui est le domaine des satellites, qui est le domaine de l'observation spatiale, militaire évidemment, en tout cas vous étiez militaire à l'époque, militaire de carrière à l'époque, donc évidemment vous n'étiez pas vous-même sur le terrain, si je puis dire, puisque évidemment ça se passait,
tout à fait.
L'action se passe dans l'espace. Mais alors racontez-nous peut-être, dites-nous peut-être déjà où vous étiez en poste, quelles sont les unités qui s'occupent des opérations et des activités, disons, satellitaires de l'armée française en général, et du coup, où se situe en fait le souvenir que vous allez nous le raconter?
Oui, tout à fait. Alors, mon souvenir se situe à Toulouse, donc au Centre Spatial de Toulouse, sur le site du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est une entité civile. Et en fait, j'avais à cette époque-là un poste en tant qu'officier de liaison et j'appartenais au Centre militaire d'observation par satellite qui se situe sur la base de Creil et qui était en charge en fait de faire tourner les satellites et de mettre en œuvre les satellites pour toute la défense et notamment pour la DRM. Donc les satellites d'observation.
Donc la DRM, rappelons, c'est la direction du renseignement
tout
militaire. Alors on a déjà fait un certain nombre d'observations, d'émissions sur le renseignement et on sait qu'il y a plusieurs organismes de renseignement et qu'il y a aussi beaucoup de sources de renseignement. Renseignement satellitaire en est un. Encore, il y a plusieurs types de renseignement satellitaire.
Ouais.
Il y a du visuel, il y a des ondes, etc. Mais donc, tout ça se passe en région parisienne, sauf la partie donc, apparemment déléguée, ou en tout cas en coopération avec un organisme civil qui est le CNES. Et donc, il faut des gens pour faire l'interface, c'est ça?
Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'avais la chance d'être à la tête de la petite équipe. De détacher. Alors, on verra, le contexte a pas mal changé depuis. Donc, c'était il y a quelques années. Et donc, en fait, dans cette équipe-là, eh bien, nous étions en charge de faire la liaison entre les besoins des militaires, l'activité vraiment militaire et l'activité civile, un peu technique, de mise en œuvre des satellites. Ça, c'est notre travail quotidien. Et en fait, l'anecdote que je pensais être intéressante de partager aujourd'hui, c'est j'ai un peu vécu un moment Houston, on a un problème, en fait, avec nos satellites. Alors, ça arrive pas souvent.
J'espère bien que vous appelez pas Houston quand
non,
vous avez un problème.
Non, voilà. Donc c'était un peu de Toulouse, on a un problème. non, voilà, un moment un petit peu exceptionnel, à la fois sur l'aspect un peu technique, sur l'événement lui-même, l'événement orbital que je vais décrire, et puis sur l'aspect personnel, qui arrivait à un moment un peu particulier de ma carrière, voilà.
Donc c'était, on n'est peut-être pas obligé de donner l'année spécifique, mais bon, disons, c'était il y a quelques années.
Quelques années, voilà. Il y a quelques années, on ne va pas citer le nom du satellite, mais bon, voilà. Donc c'était il y a quelques années, un satellite d'observation qui travaille pour la défense française. Et donc dans le cadre des activités que l'on mène depuis Toulouse, eh bien, il y a un aspect, on va dire, de surveillance de l'environnement du satellite. Et notamment, il y a beaucoup d'objets qui volent, qui orbitent autour de la Terre et qui se croisent. Et donc, assez régulièrement, on doit faire des opérations d'évitement. Et donc, on évite parce qu'on sait qu'on va croiser un objet ou un débris par rapport à notre satellite. Donc, on fait une sorte d'anticollision.
Donc, vous mettez un coup de booster à droite ou à gauche?
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Et donc, ça, c'est une opération qui est assez.
Peut rappeler aussi, soit dit en passant, que bon, il y a énormément de choses dans l'espace, mais en fait, il y a beaucoup de place dans l'espace quand même. Il y a plein d'orbites différentes, et puis dès qu'on monte, en fait, l'espace se démultiplie. Bref, donc il y a quand même beaucoup de place. Ça ne doit pas être si fréquent que ça.
Tout à fait. Alors, c'est pas si fréquent, sauf que dans le domaine du spatial, les gens sont extrêmement précautionneux parce qu'on parle quand même de systèmes qui coûtent très cher, qui ont des valeurs stratégiques extrêmement importantes et qui ne sont pas réparables. Donc en fait, les marges de sécurité qui sont prises dans le spatial sont parmi les plus grosses qui sont prises en termes de système industriel, de système technique.
C'est-à-dire, s'il y a un débris qui vient taper le satellite, pas espion, mais disons le satellite d'observation, en fait, il faut le changer, il n'y a pas de...
Il y a assez peu de... En fait, s'il y a un impact entre un objet... Une petite bille de quelques millimètres de diamètre pourrait transpercer de part en part un satellite. Donc dès qu'on a un objet un peu gros, c'est-à-dire qu'on arrive à détecter depuis le sol, on fait en sorte de l'éviter. Et en général, donc, c'est des choses qui se passent, on va dire, plusieurs fois par an, par satellite, mais qui est assez routinier, c'est très très procéduré au niveau du CNES, il y a des seuils, il y a des alertes, tout se fait de façon voilà, très, très procédurée. Et ce qui se passe en général, c'est en général là, le coup de fil du vendredi après-midi, puisque quand on est en poste à Toulouse, on est d'astreinte H24, 7 jours sur 7. Et on a en général le coup de fil du vendredi après-midi, on est obligé de revenir le dimanche matin, mal rasé, en survêt, de façon très très informelle pour appliquer la procédure et tout se passe bien. Et ben, sauf ce jour-là, en fait, on était vraiment dans un contexte particulier parce qu'il y avait une grosse réunion annuelle de tous les grands chefs militaires et DGA et autres à Toulouse.
DGA, rappelons que c'est la Direction Générale de l'Armement.
Voilà, qui a une responsabilité programmatique au niveau des systèmes spatiaux. Et donc il y avait cette grande messe annuelle
C'est-à-dire c'est la DGA qui se charge de mettre en place, de construire, de mettre...
Qui contractualise auprès d'industriels, donc Airbus et Thales en général, et qui a un vrai rôle assez important dans toute la durée de vie des systèmes spatiaux, et pas juste au moment de leur achat, mais vraiment pendant toute la durée de vie. Donc la DGA est impliquée aussi vraiment pendant de nombreuses années sur les programmes.
Donc il y avait toutes les bonnes fées du satellite qui se réunissaient à Toulouse ce jour-là.
Pour un peu le bilan annuel de fonctionnement. Et il se trouve qu'on a eu ce jour-là une alerte de croisement un peu dangereux. Et en fait, il avait plusieurs caractères assez exceptionnels, puisqu'on avait donc un de nos satellites qui allait croiser en fait un autre satellite, ce qui est assez rare, parce qu'en général, on croise plutôt des morceaux, des débris, des morceaux de fusée ou autre. Là, on croisait un autre satellite, un satellite qui était opérationnel, un satellite qui venait d'être lancé par une société du New Space californienne. Et on avait une probabilité de collision, donc en général, on travaille avec des probabilités, qui était 10 000 fois supérieure au seuil pour lequel, en général, on déclenche une manœuvre. Donc autant dire que...
Juste pour avoir une idée, c'est vous déclenchez une manœuvre à partir de quel...
Alors, on est sur des... En général, à l'époque, on déclenchait sur des probabilités de 0,05%. Donc on voit, c'est les marges que se prennent, voilà, qui sont très élevées. Et là, on était à une probabilité de 12%. Donc on voit, on était dans des... Voilà. Et en plus, avec la difficulté qu'on avait potentiellement en face un objet qui allait bouger, puisque c'est un satellite qui venait d'être lancé par une société, qui était en train de le manœuvrer peut-être. Et donc on avait une incertitude encore plus grande, et puis c'était un gros bébé, hein, c'était plusieurs centaines de kilos, donc autant dire, s'il y avait collision, on perdait tout. Et donc il a fallu trouver des moyens d'appliquer la procédure, mais dans ce contexte un peu exceptionnel. Et alors, le moment un peu particulier...
Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez la Californie ?
En fait, on s'est retrouvé à devoir faire ça, mais c'était pas simple. C'était pas simple parce que... On s'est retrouvé donc à faire notre réunion un peu d'urgence traditionnelle, sauf que là, elle se passait dans un contexte qui ne l'était pas. À la fois, donc, comme je viens de le dire, la probabilité était élevée. On allait devoir trouver un moyen d'appeler le centre de contrôle de la société américaine, ce qui n'est pas procéduré, parce que ça, c'est pas prévu. Et on avait dans la pièce, à ce moment-là, en fait, tous les grands pontes qui étaient là pour la réunion annuelle, qui étaient venus dans le centre de contrôle assister à ce qui se passait et avoir en fait en vrai cette interaction entre le CNES et des gens de l'armée qui sont là pour s'assurer que tout fonctionne bien.
Parce que j'imagine qu'en plus, ce qu'il doit y avoir d'un peu compliqué là-dedans, c'est que vous, c'est un satellite militaire, donc j'imagine que vous ne dites pas à tout le monde où il est ni ce qu'il fait.
Exactement.
Donc appeler une société du New Space pour lui dire que vous avez un satellite secret qui... Enfin bon, ça peut poser
exactement.
Des problèmes
de confidentialité. Exactement. Non, mais c'est une excellente question. Parce qu'en fait, alors, il se trouve que depuis 2009, en fait, la France avait négocié avec les États-Unis. Petite parenthèse, les États-Unis ont un réseau de surveillance de l'espace qui surveille à peu près tout et à toutes les altitudes et tous les objets. Et ils publient un catalogue de ces objets qui est accessible sur Internet. Et jusqu'à la fin des années 2000, en fait, les satellites espions français étaient sur ce catalogue. Et la France a exigé en 2009 et a négocié avec les Américains d'arrêter de publier. Donc en fait, nos satellites ont disparu du catalogue officiel. Alors les Américains le savent, mais les autorités américaines le savent, mais les sociétés privées ne le savent pas. Et concrètement, cette société a lancé son satellite sans savoir qu'il y avait un satellite sur cette orbite-là. Et effectivement, lors de la résolution de la situation, il a fallu lui l'appeler, mais sans lui dire que c'était un satellite espion français, bien évidemment. Mais il a déjà fallu savoir où appeler. Parce qu'évidemment, sur le site internet de la, de la start-up, il n'y a pas forcément le numéro de téléphone de la salle de contrôle. Donc en fait, il a fallu appeler les autorités américaines qui ont dit « bah oui, oui, on les a bien immatriculés, parce qu'il y a des immatriculations des satellites. » Mais en fait, vu qu'ils viennent d'être lancés il y a quelques semaines, en fait, on n'a pas encore fait toute la paperasse. Et donc on n'a pas encore les numéros de téléphone. Donc il a fallu aller sur internet, appeler le numéro, le service de presse.
Et vous avez appelé le standard, quoi, littéralement.
Pratiquement, voilà. Pour confirmer qu'il n'allait pas manœuvrer, parce qu'en fait, le risque, ça aurait été que bah, nous, on fasse un évitement par la gauche, entre guillemets, et puis qu'eux, ils fassent la même chose, sans le savoir, parce qu'eux, ils étaient en plus en pleine phase de mise à poste, donc c'est des moments où potentiellement, ils manœuvrent tout le temps, et voilà. Ça, c'est bien fini, on les a eus, on a pu faire notre manœuvre, mais c'était. Voilà, il y a vraiment eu ce moment où on était dans la salle de contrôle. Donc qui est une salle en plus, une cage de Faraday, avec, donc qui empêche les ondes de passer, donc pour éviter qu'il y ait les téléphones qui puissent être écoutés, avec un double sas sécurisé, avec une énorme porte blindée, voilà, on est là-dedans. On est autour d'une grande table de mission, alors dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, en général, c'est très informel, c'est très cool, c'est très détendu. Et puis là, en fait, on était assez endimanché, parce qu'il y avait cette grande réunion, tous les chefs autour, et puis en fait, il y a eu un vrai moment, un petit peu, sans jeu de mots, en apesanteur, avec le chef de mission du CNES, moi qui étais ce jour-là d'astreinte et en charge de représenter les intérêts de la défense. Donc j'étais le dernier maillon militaire sur ces. Et donc on a, parce que là, ce que je viens de résumer, ça c'est. On n'a pas trouvé tout de suite la solution, c'était pas simple. Il fallait prendre des décisions rapidement pour essayer de minimiser en fait l'impact opérationnel, c'est-à-dire que le satellite il puisse continuer à faire ses images et que. Les gens sur le terrain ne s'en aperçoivent même pas. Et d'ailleurs, en général, les opérations spatiales ont fait en sorte que les utilisateurs soient totalement transparents pour eux. Et donc, il a fallu faire de la gestion de crise dans ce contexte assez particulier. Et on parlait d'objets qui sont très hauts, qui volent très vite au-dessus de la tête.
C'était assez. Et dans ces cas-là, ça fait quoi d'avoir les grands chefs C'est-à-dire, est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils commencent à donner des idées, à dire ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'ils continuent leur réunion comme si de rien n'était?
De mon expérience dans le spatial, non, en général, ils écoutent. Bon, il se trouve que ça faisait plusieurs années que je travaillais à cet endroit-là, donc je connaissais bien mon sujet d'un point de vue technique. Ils ont vu que la relation aussi... vraiment, la symbiose qu'on avait avec l'équipe du CNES et mon équipe, elle était vraiment très très bonne. Il y avait une vraie fluidité, on se comprenait. On savait, on comprenait les implications de ce que pouvait dire l'un envers l'autre. Et en fait, tout le monde a écouté assez religieusement. C'est vrai qu'après, on en a reparlé avec...
Mais c'est intéressant parce que c'est quand même une interaction... c'est une interaction de crise civilo-militaire. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone de crise... Enfin, dans une situation de crise... C'est-à-dire, c'est pas une hiérarchie militaire ordinaire qui prend le relais ou vous donnez des ordres à tout le monde, puisque c'est le CNES qui gère le truc.
Tout à fait, tout à fait. Là, je ne donnais pas d'ordre, effectivement, mais tout l'enjeu du poste sur lequel j'étais à cette époque-là était justement de créer cette relation de confiance, de montrer que les militaires, on a notre place, on a notre périmètre. Le CNES a son périmètre, avait son périmètre en tout cas, on verra que les choses ont évolué depuis. Mais donc voilà, il y a vraiment cette interaction et c'était... normalement sur le papier, le CNES a toute délégation pour œuvrer. Mais c'est vrai le choix avait été fait dès le milieu des années 90, dès le lancement des satellites militaires, de garder une petite section donc de 3, entre 2 et 4 militaires sur place, pour quand même garder un œil sur ce qui se fait. C'était pas du tout de la défiance, hein, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de reporting vers le haut aussi, pour que les autorités militaires comprennent ce qui se passe au niveau des moyens spatiaux militaires, et puis quand même garder un œil, que tout est bien pris en compte, quoi.
Et vous venez de différentes références, vous venez de dire que ça a évolué, c'est-à-dire là, l'armée a repris la main sur les satellites militaires
ou, Alors ou l'armée n'a pas repris la main, c'est toujours avec le CNES. Mais le contexte a beaucoup évolué. Juste deux chiffres, à l'époque, on était donc, je disais, entre, on était trois, mais on a été sur, entre le milieu des années 90 et on va dire, la, on va dire 2019, il n'y a jamais eu entre plus de quatre personnes. Donc c'était les
pour
derniers.
Pour faire la liaison.
Pour faire la liaison, pour à peu près l'ensemble des capacités militaires de renseignement, entre le CNES, qui avait vraiment ce rôle de mise en œuvre technique des moyens, et les utilisateurs, qui étaient en général en région parisienne. Et bien les choses ont changé parce que le contexte spatial est de maintenant de façon assez ouverte, beaucoup plus disputée. Et la France a décidé de se doter d'une vraie stratégie, d'une nouvelle stratégie spatiale. Et à ce titre-là, la ministre en 2019 a annoncé la création d'un commandement de l'espace, donc transformation du commandement interarmé de l'espace en vrai commandement de l'espace, qui est maintenant un grand commandement de l'armée, de l'air et de l'espace. Donc il y a vraiment eu cette transformation. Ça, c'est sur au niveau des titres. Il y a eu des rallonges budgétaires, hein, 700 millions qui ont été rallongés sur la loi de programmation militaire pour monter en gamme au niveau du spatial. Et en termes humains, on passe de 3-4 personnes en 2019 à 5-6 en 2018-2019. Et objectif 2025, c'est qu'il y ait 400 militaires à Toulouse insérés dans le CNES. Et donc on n'est plus du tout sur la liaison, on est vraiment de l'assimilation et un nouveau partage, un nouveau portage aussi de l'action militaire dans le spatial.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est 400 militaires, c'est pas que pour faire de la liaison, parce que sinon ça va être bien lié.
Effectivement, alors là on va totalement changer les choses sont en train d'évoluer.
Donc il s'agit maintenant que les militaires opèrent eux-mêmes les satellites militaires.
Tout à fait, alors... Il y a toujours un partage avec le CNES. Les choses ne sont pas totalement remises à plat. Mais il y a donc depuis une grosse année d'anciens officiers de liaison. Alors pour la petite histoire que j'avais recruté il y a quelques années, qui étaient là pour au départ faire de la liaison. Et puis dans le cadre de ce grand mouvement de développement du spatial militaire, ont été intégrés, mais à part entière, dans les équipes de mise en œuvre technique des satellites par le CNES. Donc ils sont montés en gamme d'un point de vue compétences techniques. Et donc c'est les deux premiers opérateurs militaires de satellites. Hein. Ils ont été dans la presse il y a quelques semaines. Il y a eu pas mal de com fait autour d'eux, parce que c'est une vraie première de mettre des militaires sur des postes d'ingénieurs qui étaient normalement dévolus au CNES. Il y a un vrai partage, une vraie symbiose qui se crée autour de ça, puisque à côté de ça, il y a un développement, il y a plein de nouvelles capacités spatiales françaises qui arrivent là dans les années qui viennent, et donc il y a une vraie volonté en termes de centre de commande contrôle aussi spatial d'agréger tout ça. Aujourd'hui, il y a des choses un peu en région parisienne, un peu à Lyon, un peu à Toulouse, et donc l'idée c'est de rassembler tout ça à Toulouse et d'avoir une meilleure cohérence et d'être beaucoup plus efficace pour que la France continue à garder sa présence dans l'espace, garder son accès et garder son utilisation souveraine de l'espace dans un nouveau contexte disputé. Quoi.
Donc pour le dire clairement, quand on dit que l'armée de l'air devient l'armée de l'air et de l'espace, etc., que c'est une montée en puissance et qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions, des nouvelles options pour les gens qui sont intéressés par le spatial, pour faire du spatial militaire, c'est pas la Space Force aux États-Unis.
Encore
on ne sait pas très bien ce que c'est que la Space Force aux États-Unis non plus, mais c'est là, quoi. C'est dans ces trucs-là de ce qui auparavant était relativement délégué au secteur privé. L'idée que les armées françaises vont prendre, enfin en l'occurrence l'armée de l'air et de l'espace, donc va prendre en main, il va commencer à savoir opérer, mettre en place, mettre en orbite ses propres satellites et à les opérer au jour le jour. Quoi.
Tout à fait. Il y a vraiment il y a un peu une nouvelle dynamique à créer avec le CNES. Hein. C'est l'enjeu de tous des tas de groupes de travail qui sont en cours sur ce sujet-là. Mais globalement, c'est ça, c'est-à-dire c'est que le militaire n'est plus seulement un utilisateur des capacités spatiales, mais également opère ces capacités spatiales avec toujours un partage avec le CNES, parce que l'expertise technique va rester côté CNES. Hein, les militaires n'ont pas vocation à devenir des experts comme peuvent l'être les équipes du CNES, mais une meilleure imbrication des équipes et être capable, dans certains contextes, pour certaines missions, d'avoir des équipes potentiellement que militaires sur certaines activités.
On attend avec impatience une série Netflix sur la vie sur les campus de Toulouse du CNES.
Je vais postuler pour écrire des scénarios.
Merci beaucoup, commandant Frédéric.
Merci, Alexandre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.